Alléluia, vous allez bien? Ça fait vraiment plaisir de vous revoir hein, aussi rapidement. Merci à Pierre pour cette introduction. Merci à Johanna de m'avoir perturbé. Et on va essayer de se remettre en position. En tout cas, c'est vraiment, vraiment sincèrement une joie d'être avec vous encore aujourd'hui. En aussi peu de temps, inquiétez-vous pas, on a quand même une maison, même si on n'y est pas souvent. Mais on apprécie de venir dans la vôtre. Elle est très agréable. Merci pour ce temps d'adoration, merci à chacun d'être présent. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous le voulez bien, de bon matin, on va se lever et on va juste prier pour que le Seigneur nous dispose à sa parole. Merci à vous, pour celles et ceux qui le peuvent, bien entendu. Père éternel, merci pour ta grâce, parce que c'est toi qui t'es choisi une institution dans laquelle tu puisses faire résonner ta parole. Seigneur, tu as établi l'Église pour que nous puissions nous réunir, recevoir, devenir et agir selon ta volonté. Seigneur, merci parce que depuis des millénaires, cette institution demeure, Seigneur. Et si aujourd'hui c'est la fête des grands-mères, Seigneur, je voudrais dire bonne fête à l'Église. Merci pour ce que l'Église est pour chacun d'entre nous, pour les générations et générations qu'elle a enfantées sur cette terre. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, d'être réunis ce matin. Nous sommes reconnaissants d'être ensemble pour pouvoir te louer, reconnaissant de pouvoir recevoir, prêcher ta parole en toute liberté. Merci pour cette grâce. Et nous pensons à nos frères et nos sœurs de par le monde qui n'ont pas ce privilège et qui n'en demeurent pas moins l'Église. À celles et ceux qui sur le territoire de France n'ont pas la grâce de pouvoir se réunir comme nous parce qu'ils n'ont pas les lieux à propos, les personnes à propos. Seigneur, nous bénissons les exilés comme ceux qui sont à la maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Donc hier, on a eu une réunion pour les hommes, qui s'est, comme vous avez dit Pierre, très bien passée. On était à peu près à l'heure, on a fini à l'heure, on a mangé à l'heure, on a profité, on a réussi à peu près à rester entre nous, à peu près. Voilà, il y a eu certains intrus à des moments, mais c'était un bon temps. Et la Bible est claire, elle dira que dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Étonnant, mais une seule et même nouvelle créature, qui loue Dieu. Alors est-ce que c'est que Dieu annule le côté masculin, féminin, les différences? Non, pas du tout. Mais il nous renouvelle dans un point d'accord. C'est plus une histoire d'opposition, de divergence, c'est une histoire de complémentarité, c'est même plus que des différences. Parce que des différences peuvent nous laisser éloignés les uns des autres, avec respect. Mais en Dieu, en Jésus-Christ, c'est la complémentarité. Tous trouvent leur place. Aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Comme je disais, pour moi, c'est la fête de l'Église. Je disais hier soir, je sais plus à qui, on a parlé à tellement de personnes en quelques jours, que l'Église est une vieille dame, une vieille institution, mais qui demeure et qui se renouvelle de génération en génération. On doit honorer cette vieille dame qui est notre mère. On doit l'honorer et la respecter parce que en elle, on trouve de quoi être nourri. Dans l'Église, on trouve de quoi être reçu. Dans l'Église, on trouve de quoi être édifié. Dans l'Église, si imparfaite soit-elle sur cette terre, on trouve un refuge qu'on trouve dans peu d'endroits dans ce monde. Soyons honnêtes. J'aimerais qu'on puisse applaudir pour l'Église du Dieu vivant. C'est pour moi toujours une grâce de partager la parole. Alors voilà, selon les jours, si je reste encore une semaine, peut-être que je vais prêcher à cet auteur-là. Hier, j'étais par terre, là, je monte. D'étape en étape, je gravis les échelons. Je rigole, bien entendu. C'est toujours une grâce. Pourquoi j'introduis comme ça? Parce que vous êtes l'Église de Dieu. Je suis l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu. Et si aujourd'hui, on veut discuter, il faut qu'on puisse parler la parole à la hauteur de l'Église de Dieu. La parole de Dieu, elle se propose de bénir son Église. Elle se propose d'investir son Église. Pas juste Fabien, pas juste Thierry, pas juste un tel. Il faut que je me positionne maintenant tel que je suis véritablement un enfant de Dieu dans la maison de mon Père. Quand j'étais plus jeune, vous comprenez, comme un jeune métis, des fois on ne se sent pas toujours à l'aise partout. Alors à droite, ils nous disent qu'on appartient à gauche, ils nous disent qu'on appartient à droite. C'est le drame du métissage. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, bah, écoute, j'ai décidé d'être partout chez moi. Et puis bah, comme ça, au moins, ça sera plus simple. Et puis fut un jour, ma mère fut un temps, m'a dit, voilà, elle arrivait à l'église, elle est rentrée dans notre assemblée, elle s'est sentie mal à l'aise. Elle s'est énervée comme une bonne capverdienne qui sait se défendre. Elle a fait comprendre aux gens qu'il fallait pas lui faire se sentir pas chez elle à l'église. Puis moi, j'étais jeune, j'ai dit, mais maman, c'est pas grave, c'est pas important si t'es mal à l'aise. On s'en fiche. Et elle m'a regardé, elle m'a attrapé, elle m'a dit, écoute-moi bien, Fabien. Ne laisse jamais personne te faire sentir étranger dans la maison de ton père. Nous sommes dans la maison du Père aujourd'hui. Vous êtes chez vous, nous sommes chez nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Et c'est les filles qui peuvent ouvrir le frigo et se servir. C'est les filles qui peuvent avoir une chambre et s'asseoir. Vous savez, des fois on va chez des gens, fais comme chez toi, mais oublie pas que tu y es pas. Vous connaissez? Nous avons une maison qui a été tellement ouverte que des fois les personnes ont fini par croire qu'elles étaient plus chez elles que nous. Mais on a dû leur rappeler que non, c'était chez nous. Celui qui paye les factures, c'est Bibi. Voilà. Chez Dieu, c'est chez Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chez vous. Et vous pouvez venir en paix, recevoir la part de votre Père. Et même au-delà de pouvoir, vous devez venir recevoir la part de votre Père. Mais au-delà de parler de nous, j'aimerais parler de lui. Et le titre du message de ce matin, l'esquisse que j'aimerais vous apporter, c'est « Préparons-lui une place ». Et c'est ce qui a été dit dans la prophétie que Myriam a partagée tout à l'heure, dans les chants, dans les moments spontanés. Si vous analysez, moi j'aime bien analyser les choses, en règle générale je saute pas partout, bah déjà à cause du gabarit j'ai peur de casser quelque chose, mais j'essaie d'analyser ce qui se dit dans l'esprit. Et je me suis rendu compte que ce matin, tout ce qui revenait en règle générale, c'était qu'il y avait une place pour Dieu, qu'il fallait qu'on fasse place à Dieu. Vous avez remarqué? Parce que c'est le principe même du monde spirituel, de recevoir. Le monde spirituel, c'est un monde qui est fait de dons et de réceptions, tout simplement. Mais comme le monde humain, le rapport entre un homme et une femme, le rapport entre tout un chacun, on donne et on reçoit finalement, c'est constant. Donc l'égoïsme, ça sert pas à grand-chose, ça fait arrêter le cycle, et malheureusement, bah après, il n'y a plus de vie. Mais j'aimerais vous dire une chose, si nous avons trouvé un lieu dans lequel nous pouvons nous rassembler, qui s'appelle l'Église, bon, vous avez vraiment trouvé un beau lieu, mais vous vous êtes donné les moyens de ce lieu. Et vraiment, félicitations, c'est pas tombé comme ça. Mais j'aimerais vous dire peut-être quelque chose que vous ne savez pas, ou peut-être que vous savez déjà. Dieu aussi se cherche un lieu. Et ça, on l'oublie. Ça, on l'oublie. Beaucoup de gens, moi, des fois, les gens m'écrivent, voilà, je trouve pas un endroit où aller, c'est compliqué. Ça fait de la peine, en plus. Alors, des fois, les gens, ils vous lâchent tout leur fardeau au travers de Facebook. Ils finissent par penser que, je sais pas, j'ai un lien direct avec l'ange Gabriel, et que je peux envoyer un texto à l'ange Michael pour aller combattre pour eux. Mais moi, j'aimerais dire à tous ces gens et à tout un chacun, et la présence de Dieu, on en fait quoi dans tout ça? Parce que elle aussi, elle trouve pas un endroit où se reposer. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, dira, moi, j'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Nous, on lit ça comme ça, alors t'es des fois dans un élan d'orgueil de prédicateur, on dit, moi, je suis comme Jésus, mais c'est super triste, en fait. Si on remet dans le contexte, et tout n'est pas joli dans la Bible, c'est ultra triste. Celui qui a créé le monde n'a pas trouvé de place pour reposer sa tête. Et aujourd'hui, j'aimerais nous engager, nous qui sommes l'Église de Dieu, nous qui sommes restés pendant que le maître ou l'époux est parti en voyage, à lui préparer une place. Il y a un ami qui m'a envoyé une photo hier, qui m'a dit « Regarde ce que ma femme m'a offert quand je suis rentré à la maison. » Il m'a envoyé la photo, il m'a dit « Voilà, j'ai fait la journée homme. Bah, je sais pas ce qu'elle s'est dit, il va peut-être pas revenir tout de suite, vu que les copains sont là, je sais comment l'attirer. » Et elle a su comment l'attirer. Il est rentré, il était tellement content qu'il a envoyé la photo du cadeau qu'elle lui avait préparé. Il y a certaines femmes, peut-être, qui hier avaient préparé un repas pour leur mari. Vous savez toutes comment garder vos maris. Ma femme, elle sait aussi comment faire. Si tu rentres pas, attention. Donc je rentre en région. Voilà. Les jeunes de 40 jours, il y a une limite aussi. Donc voilà, je rentre à la maison. Ben, il faut que l'Église, elle trouve comment attirer son époux à elle. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ, quand il revienne, il puisse trouver ce qui lui fait plaisir. T'as vu, lorsqu'on reçoit quelqu'un, je sais pas si ça vous est arrivé, moi j'ai l'habitude de parler la parole. Là, je vais vous parler comme ça pendant 3 quarts d'heure. Voilà, j'espère que vous en tirerez quelque chose. Des fois, quand on reçoit des gens, moi ça m'arrive d'être reçu, ça me fait rire. Tu vois la disposition des gens selon comment ils te reçoivent. Il y a des personnes, elles te reçoivent pour se faire plaisir à elles. Donc elles vont te faire le plat le plus bizarre qui existe, avec 95% de chances que t'aimes pas. Puis elles vont te sortir le verset et manger de tout ce qu'on vous met sur la table. Alors moi, je prie au nom de Jésus-Christ, je sanctifie ces mets, et puis je bouche mon nez et j'avale. Et il y a des personnes, c'est l'inverse. Elles vont chercher ce que t'aimes. Pas parce que c'est des faillots, mais parce que c'est des gens qui ont envie de t'honorer, tout simplement. Et après, il y a des gens qui vont te faire découvrir ce qu'ils aiment, qui prennent le temps. Mais en règle générale, quand t'invites un étranger, tu fais pas des tests. Tiens, j'ai jamais essayé ça, j'avais un paquet de piments, tiens, mange, bim. Le gars, il passe la nuit, il n'est pas bien. Mais moi, j'ai connu ces étapes-là. S'il boit quelques breuvages mortels, c'est devenu quelque chose de réel pour moi. Et pour mon épouse qui rigole en bas. Là, elle voit des scènes, elle se dit, bon sang, il a osé. Ben, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qu'on offre au Seigneur lorsqu'il vient parmi nous? Est-ce qu'on essaye d'inviter le Seigneur Jésus-Christ parce que ça nous plaît, nous? Ou est-ce qu'on l'invite, ou plutôt on le reçoit, mais parce que c'est chez lui et qu'on a envie qu'il se sente bien chez lui? Comme un héros qui rentre de la guerre, qui rentre du travail, qui est fatigué. Vous savez, les femmes d'antan, où malheureusement la génération moderne, elle a pété les plombs, elles pensent que voilà, toutes les femmes au foyer sont des personnes arriérées. Mais moi, écoutez, mes grand-mères, elles ont été femmes au foyer parce qu'elles s'occupaient, elles aidaient leur mari parce qu'ils bossaient. Alors, c'est pas une obligation de l'être. Moi, je fais pas l'apologie de ça. Je comprends, le monde a changé, il faut payer plus de factures, c'est plus compliqué. Mais à l'époque, c'était tout simplement, elle prenait soin, et quand le grand-père y rentrait, il était en règle générale très fatigué, parce que les boulots de l'époque étaient plus fatigants que les boulots d'aujourd'hui, physiquement. Mais il retrouvait la maison, et il était reconnaissant de ça. Il venait pas comme un pacha. Il y avait un saint respect entre eux. Voilà, chacun tenait son rôle. Et c'est ce qui fait que pendant des générations, le monde a fonctionné. C'est ce qui fait que depuis deux générations, le monde s'effondre. Posons-nous les bonnes questions. Petit aparté. Mais quand le Seigneur vient, il faut qu'il puisse trouver du repos dans l'Église. De la joie dans l'Église, du plaisir dans l'Église. Je suis chrétien et je suis pas l'incarnation de l'altruisme, mais quand même. Et le Seigneur dans tout ça. Le Seigneur qui veut, hey, bénis-moi, fais ceci, fais cela. Mais Seigneur, viens et repose-toi. Il y a une histoire dans l'évangile de Jean d'une famille qui avait compris ça. Quand Jésus passait, il le recevait tout le temps. C'est marrant, il y a plein de personnages bibliques dont on n'a pas retenu les prénoms, même parmi les apôtres. Où on les oublie, bien qu'on les a listés. Mais ces gens-là, on s'en souvient tous, Marthe, Marie, Lazare, une fratrie qui recevait Jésus dans leur maison. Quand il passait, il le recevait, ils étaient contents, et limite, ils devaient être comme moi avec vous, allez, vous passez quand à la maison? Et au bout d'un moment, le Seigneur, il est passé à la maison, et il y était bien. Et ce qui fait qu'il y était bien, c'est pas parce qu'il faisait des cellules de maison à répétition, il était juste reçu. Alors ils partageaient, ils mangeaient dans une discussion. Des fois, il y a plus d'édification que dans un message le dimanche. Hein, parce que tu as l'occasion de parler, de rendre la parole personnelle. Et vous savez ce qui s'est passé? Jésus était en mission à quelques kilomètres. Et à l'époque, quelques kilomètres, vu qu'on est à pied, c'est quelques jours de marche. Quand cette famille a eu un problème, Jésus, il est venu. Parce qu'il y avait un lien d'affection qui les liait entre eux. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Quand Abraham est arrivé sous le chêne de Mamré dans l'Ancien Testament, livre de la Genèse, il a fait alliance avec une fratrie. C'est ce qui a fait que quand son neveu était en guerre, il a pu armer les gens de sa maison et aller reprendre ce qui lui était dû. L'alliance. Quand on est en alliance avec Dieu, je vais vous choquer, on n'a pas besoin des fois de prier 70 heures par jour, sachant qu'il n'y en a pas autant. On est en alliance avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on devient négligent, mais on vit et on fait ce qu'on doit faire. Et lorsque quelque chose nous arrive, Dieu répond. Et lorsque quelque chose arrive à Dieu, on est au courant et on répond. On devient autant la solution à Dieu qu'il devient notre solution à nous, toute proportion gardée. Aujourd'hui, on a enseigné l'Église à être égocentrée. Moi, rien que moi et moi, rien que moi. Alors on trouve des bénédictions et une certaine limite. Mais on ne rentre pas dans l'Alliance. À l'époque de l'Ancien Testament, et encore aujourd'hui en Israël, il y a ce qu'on appelle la Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres. La bénédiction des prêtres, elle était pour le peuple d'Israël et ensuite pour les nations. Tous les ans au temple, ils tuaient, ils faisaient des sacrifices pour bénir les nations qui montaient. Vous lirez dans le livre de Zacharie les questions qu'à la fin des temps, toutes les nations de la terre monteront à Jérusalem pour être bénies. Et la nation qui ne se présentera pas là-bas, Dieu ne bénira pas cette nation et pire encore. Donc il y avait une notion de bénir les nations. Est-ce que ça veut dire que toutes les nations étaient rentrées dans l'Alliance? Non. Il y a une différence entre être béni et une différence entre être marié. Vous avez vu, ça m'a beaucoup touché, merci pour cette belle introduction. Pierre, il a dit, voilà, quand on ne connaît pas une personne ou qu'on la reçoit, que c'est un extérieur, eh ben, on le présente d'une certaine façon. Quand c'est quelqu'un de la famille, il est de la maison, ben, prends le micro et dis-nous ce que tu as à dire. Il y a des gens qui te diraient, comment je m'introduis? C'est l'introduction qui m'aura le plus touché, peut-être, pour les 10 prochaines années. Parce que ça veut dire t'es chez toi. Pourquoi? Parce qu'on est en amitié. On fait grandir cette amitié. Et c'est ce qui fait que demain, si j'ai un besoin à la mesure où il peut y répondre, ben il essayera, s'il peut dans l'espace et dans le temps. Et réciproquement, pas parce qu'on est redevable, parce qu'on est ami. La Bible elle dit qu'on est appelé ami de Dieu, pour certains. Jésus avait une multitude de disciples, c'est qu'à certains qu'il a dit « je vous appelle plus serviteur mais ami ». Ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout dans toutes ses peines. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel dira lui-même d'Abraham qu'il est son ami. « Race de mon ami Abraham ». Il parlera de Moïse et de certaines personnes avec un lien d'affection. Pas de tous. Il parlera de ses serviteurs, les prophètes. Mais il y a plus que d'être un prophète et être un ami de Dieu. Il y a plus que d'être un voyant et être un sachant. Quelqu'un qui connaît son Dieu, tout simplement. C'est ce que nous sommes appelés à être. Qu'est-ce qu'il est dit ? On l'a cité hier dans les épîtres de l'apôtre Jean. À un moment, il va classifier même la famille de Dieu. Je vous écris, petit enfant. Je vous écris, jeunes gens, et je vous écris, père. Vous irez voir. Je répète ça tout le temps parce que c'est tellement, moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Il y a un système de croissance dans les deux premiers. Les pères, ils répètent deux fois la même chose. Vous connaissez celui qui est depuis le commencement. Vous êtes stable dans cette connaissance. Quand l'apôtre Pierre écrira aux anciens de l'Église, il leur dira, « Moi, Pierre, ancien comme vous. » Mais quand tu atteins ce niveau de maturité de père ou de mère, c'est des expressions bibliques, hein, de stabilité, de maturité, le père, il peut dire, « T'es un père comme moi. On se comprend, on se connaît. » Quand t'es quelqu'un qui te sacrifie comme Jésus, le Seigneur, il dit, « Viens, on y va ensemble, parce que t'es comme moi. » Moi, je vous appelle à être comme lui. Aujourd'hui, j'aimerais dire à l'église, bien sûr, de la CBM, et j'en profite, c'est filmé, autant en profiter. J'aimerais le dire à l'église de France. Sortons de cet égocentrisme. Il y a une bénédiction pour ceux qui se donnent pour lui. Inquiétez-vous pas, il s'occupera de vos biens. Mais d'abord le sien. Jésus est appelé le fils de David. Le fils de David. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, David veut dire bien-aimé. Merci pour l'hébreu. On a les numéros strong, nous aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus que ça? Pourquoi il est le bien-aimé? Pourquoi est-ce qu'il est le bien-aimé? Parce qu'il accomplit toute la volonté de Dieu. Même toutes les volontés de Dieu, la diversité de Dieu dans sa volonté. C'est quelqu'un qui cherche le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que le roi David, le jour où il pêche avec Bathsheba contre Uri, c'est horrible ce qui se passe. Concrètement, même en termes d'amitié, on est plus que limite. Mais quand il se repent, il va dire « j'ai péché contre toi seul à Dieu ». Moi, souvent, les premières années de vie chrétienne, en vrai, franchement, j'étais choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez lui? Il est quand même Uri. Tout. Et c'est pas ça que David veut dire. Il va plus loin. Il dit, en somme, le niveau de péché, c'est contre Dieu. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas accompli sa volonté. Des gens, malheureusement, qui commettent des impairs et même des meurtres, etc. C'est horrible ce que je vais vous dire. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y en a plein sur terre. Peut-être même ce matin même. Mais des gens qui veulent faire la volonté de Dieu, il y en a vraiment très peu à ce niveau-là. Et David, il dit, voilà, en faisant ça, je me suis extrait de ta volonté. En cachant ça pendant un certain temps, j'ai empêché de faire ta volonté. C'est ultra grave. C'est-à-dire que j'ai fait subir à Dieu le fait que sa volonté soit plus exprimée sur la terre. Et en ça, il s'est repenti. Et c'est pour ça que Dieu l'a honoré. Mais que dira le roi David un jour? Il est là, dans son palais, belle église, il est bien. Plus c'est le roi David, il a un peu d'argent, quelques femmes, Ancien Testament. On lui amène à manger tous les jours. Pas mal quand même. Hein. Entre-temps, sa famille s'est mise bien, d'exilés, et maintenant c'est les boss du système. Ils sont bien. Et il va être là, tout le monde lui dit hey, « loué soit le roi David ». En plus, paraît-il qu'il a développé un système de chorégraphie devant l'Arche de l'Alliance, tout ça. Non, c'est tout superbe. Il est génial. Le roi David, il est roi. À côté de ça, il est prophète. Il arrive à rentrer dans certains lieux où les autres qui sont rentrés, ils ont perdu la royauté. Extraordinaire. On parle que Moïse a reçu les 10 commandements de la main de Dieu. David dira lui-même dans certains textes, il dira « des écrits que j'ai reçus de sa main ». On prêche pas souvent là-dessus. Donc lui-même, il a vécu des choses. Ouf, il est bien hein, en termes de réception. Et vous savez c'est quoi le drame de David, son inquiétude de David? Et c'est là où Jésus est le fils de David. Il dira, écoutez, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux. Là, dans la génération, il faut impérativement se reposer, sinon, attention, tu t'es pas reposé. Ah, ben le roi David alors. Je ne donnerai de repos à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour toi, ô Éternel. Un endroit où tu puisses toi aussi te reposer. Et tu sais quoi, mon ami, on se reposera ensemble. Et ça touche Dieu. Parce que Dieu, je ne veux pas vous choquer, Dieu, il n'est pas fou. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Dieu n'est pas fou. Donc Dieu, il sait très bien que David, il va aller se coucher. Hein. Je ne vous dis pas de boire du café et du Red Bull donne des ailes à longueur de journée. Mais d'avoir un cœur porté, le lieu pour Dieu, un lieu pour Dieu, un lieu pour Dieu, un lieu pour Dieu, pour qu'il puisse faire reposer sa présence. Dans l'Ancien Testament, on voit dans le livre de la Genèse, au début de l'histoire, au commencement était un petit enfant. Non, au commencement était Dieu. Il était là, il était là. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu, voilà. L'espace est pour moi. Le temps, il n'existe même pas encore parce que moi je suis l'éternel et l'éternité vit en lui. Il est bien. Bon, ok? Les anges existent. Il y a eu quelques capotages à ce niveau-là. Bon, après, il a réglé le problème. Il leur a dit de s'en aller, etc. Et Dieu, il se dit, je vais créer un espace pour la vie. Et il crée cette terre telle que nous la connaissons et un petit peu changée depuis quelques millénaires quand même. Et il met l'homme, mais son but à Dieu premier, c'était de pouvoir marcher avec cet homme, partager avec lui, être ensemble. Que de même que l'homme est un endroit pour être bien, et Dieu puisse être bien avec lui quand même. Et va arriver ce qu'on vous a sûrement déjà beaucoup enseigné, la chute de l'homme. L'homme va être chassé du jardin. Voilà, il y a plein d'explications à ça. Et l'homme va rentrer dans un certain exil. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu aussi est rentré dans un exil. Ce jour-là. Parce que Dieu n'est entier qu'à la mesure où il partage avec l'humanité. Et pendant que l'être humain est exilé à cause de son péché, de sa folie, de son orgueil et de sa bêtise, Dieu, il est exilé dans son amour. Et il poursuit l'homme, il cherche l'homme. Il va de par le monde, il envoie des prophètes dans l'Ancien Testament, il crée des systèmes, il cherche à rattraper son ami qui s'est perdu. Pour retrouver cette amitié, mais dans un degré d'amitié saine. Parce qu'on aurait pu dire, attends, t'es sympa, il avait qu'à le garder dans le jardin. Erreur, comme dirait, je connais ton père. Erreur. S'il le gardait dans le jardin et qu'il le faisait manger à l'arbre de vie, il restait éternellement pécheur. Et là, il n'y a plus de sacrifice qui peut le sauver. Dieu s'est dit, si je le garde comme ça, si je garde cette relation, il connaîtra jamais la sainteté. L'humain ne connaîtra jamais le repos. Alors il lui a permis d'aller dans sa voie, il l'a poursuivi dans sa voie. Donc tant que l'humanité est en exil, Dieu lui-même est en exil. Et pour celles et ceux qui se diront, c'est peut-être fort café ce que tu dis, vous lirez le livre du prophète Ézéchiel, quand la gloire de Dieu, qui après avoir trouvé le temple, finalement ne peut plus rester dans ce temple. Deuxième, on parle de l'esprit de rejet chez nous, est-ce qu'on peut en parler chez Dieu? Parce qu'il n'y a pas plus rejeté que Dieu. Il n'y a pas plus méprisé que Dieu. Il n'y a pas plus abandonné que Dieu. Vraiment. Et c'est pour ça qu'il peut nous comprendre, nous guérir et dire, t'inquiète pas, je la connais ta peine et je peux t'aider. Mais que Dieu nous connaisse, je suis désolé, c'est plus si important. En tout cas, pour moi, c'est plus si important. Parce que c'est évident, il est Dieu, il nous connaît tous. Ouais, Dieu est foncièrement bon, c'est un père, ok, super. Et c'est vrai, heureusement d'ailleurs. Mais maintenant, je me dis, et nous, ces enfants-là, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le connaît au point d'être soucieux de lui? Parce que c'est ce que David vivait. David, il va dire, je suis super bien dans mon palais, tout va bien, mais l'arche de Dieu, c'est-à-dire le témoignage de Dieu, lui, il est sous une tente comme ça, là. Il dit, non, ça me va pas. Et même Dieu va anticiper, va lui dire, j'ai jamais rien demandé là-dessus. T'inquiète pas, jamais rien demandé là-dessus. Et David, il dit, non, mais c'est au-delà de toi, ta demande, c'est mon désir. Et ce désir va tellement toucher Dieu qu'il va dire, écoute, bon, par contre, toi, à cause de ta vie, sur des choses, tu pourras pas construire à la hauteur de ce que je veux, mais ton fils va le faire. Parce que David s'est soucié du besoin de Dieu, c'est la première fois où Dieu va se mettre à parler d'une descendance pour David, d'une famille pour David. Tout à l'heure, on a reçu cette parole que les familles allaient être bénies. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire comment vos familles peuvent être bénies. Ayez le souci de Dieu. Et lui, il aura le souci de tout ce qui vous concerne. Tout à l'heure, on a dit, il faut accueillir sa présence, bien sûr. Préparons un lieu pour lui. Un lieu ensemble et un lieu en nous. Parce que depuis des générations et des générations, Dieu se cherche un lieu. Un Dieu en exil. Il est dit dans le Lévitique. Oui, j'ai osé, le livre du Lévitique. C'est pas mal quand même. Courageux, mais j'ai pris un verset facile. Lévitique, chapitre 26, verset 12. Comme ça, pour celles et ceux qui ont arrêté le Lévitique au chapitre 3, vous verrez que c'est pas qu'une histoire de tu couperas l'oreille du poisson et tu... Non, il y a d'autres choses. Même ça, écoutez, je fais une digression parce que j'ai envie de vous donner envie de lire la Bible. La Bible, c'est magnifique. Vous prenez le plus long chapitre de la Bible, c'est le psaume 119. Ah, quand on arrive dessus, t'es sur la Bible en un an, un chapitre par jour, tout ça. En règle générale, quand t'arrives au psaume 119, tu dis, mince, on me l'avait pas dit de celle-là. Et Dieu est bon, un ou deux chapitres après, c'est le psaume, le chapitre le plus court de la Bible, il compense. Mais vous allez au milieu du psaume 119, au milieu, vous avez des pépites, même dès le début. Hein. Mais il y a plein de choses où Dieu les a cachées pour les courageux. Voilà, ceux qui ont le courage d'aller dans les endroits difficiles. Vous lisez le livre des Chroniques avec 16 chapitres de généalogie ou Lévitique. Il y a plein de révélations sur Jésus, tout ça dans le Lévitique. Mais même le niveau juste d'histoire à lire, certains récits, bah vous le trouvez au milieu des Nombres, au milieu de Lévitique. Dieu l'a fait exprès, c'est les checkpoints, les ventolines pour les lecteurs premier niveau. Et après, on se met à aimer. Vous savez, Dieu, il cache les choses. L'Éternel, c'est un Dieu qui se cache, il nous apprend à les sonder. C'est la fête de Pâques selon la France, tous les jours avec Dieu. On peut trouver des œufs en chocolat partout. Et comme vous avez vu, moi j'aime beaucoup chercher. Et j'ai trouvé par la grâce de Dieu. Dans Lévitique chapitre 26, verset 12, il est dit « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » C'est la promesse de Dieu. C'est beau. La première chose que Dieu va faire, Dieu donne une promesse tout le temps. Il a une promesse de sa présence. Il dit, voilà, je vais venir. Et vous avez vu là tout de suite, il n'est pas en train de dire, virgule. Alors bien sûr, j'ai pris le verset et je le sors. Et donc il y a des versets autour. Mais il n'est pas en train de faire une liste exhaustive de chaque détail de tout ce qu'il va t'accorder. Tout est réduit là-dedans. Je serai votre Dieu. Tu dis, oui, mais il n'y a plus de mais. Si je suis ton Dieu, t'inquiète pas, il y a tout. Je disais ça hier à notre ami présent, on parlait des relations, des personnes. Je dis, ah, t'as vu, bah, effectivement, après, quand t'es en lien d'affection avec des gens, bah, ce que t'es, c'est, ça bénéficie aux autres, ce qu'ils sont, ça te bénéficie. C'est plus malsain, tu ne l'as pas fait dans ce sens. Et on discutait de ça, je disais, mais regarde, lui, il a 3 enfants. Je lui dis, mais demain, t'es millionnaire, rassure-moi, tes enfants, ça va, tu leur achètes à manger quand même. Est-ce que tu vas dire, ils profitent de moi? Non, c'est comme ça. Si Dieu devient ton Dieu, pas juste Dieu, Dieu devient ton Dieu, alors tout ce qu'il a te profite de façon saine. Et vu que Dieu est ton Dieu, le Père est ton Père, t'as pas une mentalité de désaccès où t'es là en train de hyper-consommation spirituelle, professaille. Non, t'es tout simplement, tu reçois au temps convenable parce que t'es mesuré et sobre comme ton Dieu. T'es quelqu'un de stable. Ça fait des beaux êtres humains, hein. Vous en connaissez beaucoup des comme ça? Moi non. Mais je crois que cette race existe. Et sincèrement, j'aimerais un jour en faire partie. Et je marche en ce sens. J'aimerais dire marchons ensemble. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et pourtant, 3 petits points, c'est pas dans le verset, c'est moi qui l'ai rajouté. Vous lirez Jérémie, est-ce qu'on peut l'afficher si c'est possible? Jérémie chapitre 11 et verset 15. Et le laisser jusqu'à la fin. Jérémie chapitre 11, verset 15. Il est dit, que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. D'autres versions diront, quand tu fais le mal, c'est alors que tu te réjouis. Le mal dans la Bible, c'est pas simplement, j'ai volé un œuf, j'ai volé un bœuf. Le mal dans la Bible, c'est rien que ne pas faire ce qui est bien. Le mal, c'est être désaxé du bien. Le bien, c'est beaucoup plus large que juste, bah écoute, bonjour Lydie, comment ça va Lydie? C'est plus que ça. Le bien, c'est un état d'âme, c'est une intention, c'est une volonté de bénir. Le mal commence toujours par l'égocentrisme. On dira, l'orgueil a fait tomber l'homme, l'orgueil a fait tomber le diable, ce qui est vrai, mais l'orgueil, il est né de quoi d'abord? De l'égocentrisme. De l'égoïsme, il regarda à lui-même, il est dit de Lucifer. Et après, il s'est enorgueilli. Déjà, quand tu commences à trop regarder sur toi-même, bah, donne-moi quelques années et je t'appellerai Satan au lieu de t'appeler Lucifer. Ça commence comme ça. Et bah là, tu t'arrêtes, s'il vous plaît. Je vais pas prendre une minute de silence, ça serait bizarre dans un enregistrement, mais si on s'arrête tout de suite, qu'on réfléchit même à notre société moderne, au sens large, on se dit « aïe, aïe, aïe ». Effectivement, le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde dit « regarde à toi ». ton intérêt, ta personne, ton ceci, ton cela, ton ce... On est d'accord ou pas? Maintenant, regarde à l'église, tu dis, ouf! Ah oui, effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'on enseigne? C'est quoi les best-sellers? Va te renseigner, c'est quoi les livres best-sellers, les sujets abordés. Tu vas dire, aïe, aïe, aïe. Maintenant, tu dis, écoute, ouais, mais c'est les autres. Écoutez-moi, moi, je regarde à moi, je retrouve ça en moi. Je dis, c'est dingue. Délivre-nous du mal, mon Père. Délivre-nous du mal pour nous consacrer au bien. Ça, c'est un christianisme qui engage. Pourquoi? Parce que c'est bien d'être mieux? Non, c'est parce qu'on veut que le bien-aimé il vienne dans sa maison. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Mais ça fait peur. C'est Dieu qui parle, il dit mon bien-aimé, ma maison, et à cause de ceux qui sont dans cette maison, mon bien-aimé dans ma maison ne peut pas venir. Ça questionne énormément. Il est chez lui. On te ferait ça chez toi? Bon, bien qu'en France, il y a des lois qui protègent ceux qui font ça, il y a des personnes qui ont des moyens de les faire partir et qui utilisent ces moyens. Heureusement. Mais dans la majorité des pays sensés, quelqu'un vient chez toi, il change la serrure, bah c'est pas grave, tu changeras la porte après l'avoir cassée. Et puis tu sors la personne. Ben j'aimerais vous dire une chose, la Bible parle de la patience de Dieu. Mais la Bible, elle parle que cette patience a une fin. Dieu, il laisse le temps aux gens. Allez, ils sont dans ma maison, mais ils sont un petit peu you-you, tout ça. Ils vont s'apaiser. Ils vont écouter mon esprit, ils vont écouter les prophètes, ils vont écouter les écrits, ils vont changer. Et puis comme ça, on va venir et se réjouir, ça sera les noces de l'agneau. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, il va vraiment venir. Et il va rentrer dans sa maison, il va dire, me voici, et maintenant je viens reprendre ce qui m'est dû. C'est pour ça qu'il est dit que quand le Christ va revenir, tous les royaumes de la terre vont trembler. Tous les rois, là, tout ce qu'on apprend, les scandales, tutti quanti, ils profitent de la patience de Dieu. Mais quand Dieu va revenir et que leur antéchrist va être vaincu, Jésus, il fait pas un concours d'escrime avec l'antéchrist. Jésus, il arrive, il règle le problème direct. Il y a personne de comparable à lui. Il laisse les gens parler. C'est comme le roi David, Jésus, fils de David. Ça fait 40 jours que Goliath, il est là. Le matin, le soir, David, il arrive, il écoute, il analyse, il dit, pourquoi vous avez tous peur? Ah mais là, tu te rends pas compte, c'est un bodybuilder, c'est Hulk des temps bibliques, quoi. Et il dit, mais lui? Il dit, l'Éternel sera avec moi. Mais vous avez vu, Goliath, il va maudire David par tous les dieux des Philistins. Et vu que c'est le panthéon romain des anciens temps, ben, il y en a plein, quoi. Un tel, c'est niveau poétique. Non, mais c'est le slammer le plus puissant de l'Ancien Testament. Il est là, boum, boum, il envoie, c'est poétique. Ça fait peur, quoi. Puis il est grand, les gens portent son bouclier, il vient avec toute une équipe. Et tu te dis, bah attends, oh, c'est là, t'es devant un sacré morceau. J'ai failli dire Big Prophet, mais je vais pas le dire. Donc voilà, t'es devant quelqu'un, attention à la personne. Le roi David, il vient tout seul, humainement. Il arrive, il est tout petit, il est blond ou rouquin, selon les versions. Il a une besace. Alors on sait pas, qu'est-ce t'as pris, un sandwich de ta maman? T'inquiète pas, tu vas voir le sandwich de ma maman. Et il sort ce qu'il a. Il a une pierre. Mais au-delà d'une pierre, il a un Dieu. Il dira, aujourd'hui, tout le monde saura qu'Israël a un Dieu. David, il perd pas son temps à déblatérer avec Goliath. Il le tue, un point, c'est tout. Quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va déblatérer avec personne. Du plus grand vaudouisant, du plus grand franc-maçon, ou du plus petit rebelle dans l'église, il discutera avec personne. Il reprendra sa place sur le trône de son royaume, dans sa maison qui est la sienne. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous préparer. L'apôtre Paul dira, à la fin de 2 Corinthiens, dans les deux derniers chapitres, il parlera de sa troisième venue. Parce que c'est la troisième fois qu'il va chez eux. Mais c'est le Saint-Esprit aussi qui nous parle pour nous. Mais non Fabien, c'est la deuxième venue de Jésus. Mais t'es au courant qu'il y a un Ancien Testament ou pas? Rassure-moi, tu sais que la Bible, elle commence pas à Matthieu. Il y a un Ancien Testament. L'Éternel, il est déjà venu sur cette terre. Il a déjà visité ce monde. Mais là, il revient pour la dernière fois. Pour prendre ceux qui sont à lui, régler ce qu'il a à régler. Ésaïe 66, une voix sort du temple. C'est l'Éternel qui paie à ses adversaires leur salaire. Il y a 66 livres dans la Bible. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Une voix, Ésaïe 66, verset 6, pour ceux qui aiment le chiffre de la bête. Voilà ce que je dis à ceux qui font monter la bête ou que la bête de l'événement arrive. Mon Dieu, quand il viendra, il vous fera payer le salaire de vos fautes. Une voix sort du temple, c'est l'Éternel qui paie à ses adversaires leur salaire. Et l'Éternel est le Dieu qui est le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, dit à son peuple, préparez-moi une place digne de me recevoir. Parce que cette époque où je viens et qu'on me fait naître dans une auberge, elle est révolue. Cette époque où quand j'arrive à Jérusalem sur mon âne, je finis finalement sur une croix, elle est révolue. Plus personne ne me touchera comme ça. Quand je vais revenir, je vais rappeler c'est quoi le niveau de mes exigences. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, l'Église, malheureusement, je parle dans sa globalité, vous faites partie du corps de Christ, vous êtes une très belle Église, et je suis pas un faillot, je le pense réellement, sincèrement, mais vous faites partie du corps. Vous voyez, si, imaginons, ah, c'est superbe, j'ai un gros muscle, mais à côté, tout le reste est bousillé. Bah, le problème, c'est que ce gros muscle, il a besoin du reste pour exister. Bah, j'aimerais vous dire que le corps de Christ actuellement, dans son état actuel, rendu visible du moins, il répond pas à ses exigences. Et on dit, envoie ton feu Seigneur, envoie ton réveil. Il dit, mais est-ce que vous savez ce que ça va faire quand je vais rentrer? Vous pensez que c'est que des guérisons? Préparez d'abord les corbillards devant l'église. Et là, Dieu, dans sa grande bonté, comme du temps de Moïse, Moïse, il arrive, il voit que les Israélites ont fait n'importe quoi. Vous savez ce que fait Moïse, homme de Dieu, comme on l'appelle? Moïse, il sort la tente, le tabernacle, il le sort du camp. Après, il dit à Dieu, mais quand même, viens avec nous. Il dit, mais tu te rends pas compte, Moïse, si je viens avec vous, je vais vous détruire. Et tu dis, mais Dieu, il est méchant. Mais non, justement, il est bon, c'est pour ça qu'il vient pas. Il a pas dit, je veux vous détruire. Justement, Dieu ne veut qu'aucun homme périsse. Donc il envoie son fils dans le corps d'un homme, dans l'humilité, pour pouvoir nous changer. Mais il dit, de par ma nature, ce qui s'émane de moi, t'as vu, demain, je vais dans une centrale nucléaire, c'est pas qu'elle veut me détruire. Si je rentre tout nu dedans, je ressors pas. Ouais, mais la centrale nucléaire, elle est méchante. Non, c'est ce qu'elle est. Ce qui émane de là-bas, bah, c'est nocif. Bah, la gloire de Dieu et la puissance de Dieu, elle est nocif pour le péché. Elle est nocif pour l'orgueil. Elle est nocif pour tout ce qui n'est pas honorable. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il va dire dans 2 Corinthiens qui vient pour la troisième fois, et je le redis, je répète les mêmes choses, et je suis très content de les répéter, par là même, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il dit, je crains, mais voyez le cœur, je crains de ne pas vous trouver tel que je le désire. Ah bah c'est dommage. Mais la suite, et que vous ne me trouviez pas tel que vous le désirez. Il dit, là le problème, si je viens dans cet état-là, eh ben on va tous être déçus en fait. Et vous lisez la suite du passage, il dira, je crains que Dieu ait encore à m'humilier, que je trouve des cabales, des animosités, des révoltes, de l'orgueil, de l'impureté au milieu de vous. Et les gens disent, viens Seigneur, Maranatha, rentre dans ta maison. Et l'Éternel leur dit, par la voix d'un petit barbu, que ferait mon bien-aimé dans ma maison, alors qu'il s'y commet autant d'iniquité, autant d'impureté. Alors il nous appartient à nous, à notre petit niveau peut-être, de préparer une place pour lui. Et si on ne peut pas le faire dans une communauté, eh ben on peut le faire déjà dans notre vie. Est-ce que tu as reçu le Seigneur dans ton cœur, comme certains diront? C'est un bon début. Maintenant, est-ce que tu peux lui faire de la place dans ta maison? Est-ce que tu peux lui faire de la place dans ta famille? Ils sont pas convertis, bah dans les quelques-uns qui sont adhérents. Est-ce qu'on peut lui faire une place entre nous? Une place dans nos relations? Souvent, je dis à mon épouse, je dis, t'as vu, les gens, ils veulent faire plein de trucs, mais ils ont le temps de rien. Ils veulent créer des relations, ils ont le temps de rien, ils ont l'espace pour rien. Avec les hommes qui voient? Mais tu vas me dire qu'ils ont de l'espace pour Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Sortir de la crise mystique ou parce que t'as pensé, tu te dis que c'est vrai. Non, ça marche pas comme ça. Il y a des règles de bienséance dans le royaume de Dieu. Dieu, il dit maintenant, prépare-moi une place, comment? Enlève l'impureté. Enlève l'animosité. Enlève le non-pardon. Enlève les rivalités. Enlève les oui, mais ma place. Et Dieu, il dit, mais t'es gentil, moi-même, j'ai pas de place. Les gens, ils sont tous là. Et moi, le premier, ça me fait plein de fois. Des fois, je suis avec Lydie, mais elle est où notre place sur cette terre? J'ai l'impression qu'on est tout le temps en mouvement. Je pense que j'ai dû fatiguer le paradis à dire ça. Avec humour, parce que moi, je crois que mon père a de l'humour. Votre père, qui est mon père, a de l'humour. Il aime bien rigoler avec nous. Je dis, mais Seigneur, ben, je n'ai pas passé ma vie dans ma voiture quand même. Puis après, j'ai lu Ézéchiel chapitre 1 et j'ai vu que le trône de Dieu était en perpétuel mouvement. Pas parce que Dieu est un voyageur et qu'il aspire à être constamment en voyage, mais parce que Dieu cherche un lieu. Et j'ai dit, hey, Seigneur, ben, peut-être que tu es en train de m'apprendre à mieux te comprendre toi en vivant ça. Ben, si c'est possible, et tout est possible à celui qui croit. Seigneur, faisons ce trajet ensemble. Il y a de la place dans ma voiture. On mettra Lydie sur la banquette arrière. C'est moi qui conduis. Peut-être pas passer derrière. Partage la route, inquiétez-vous pas. Je suis pour la parité des efforts. Mais Seigneur, faisons la route ensemble. Et je vous encourage et je nous encourage les uns les autres à faire la route avec lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. L'apôtre Paul, voilà, je fais exprès, hein, parce que on ne sait plus. Après, il y a des gens, ils disent pas ce qu'ils pensent, mais ils ont pensé quelque chose. Il y a des commentaires, des fois, fallacieux, donc je préfère cloisonner, et j'appelle ça la clé de bras biblique. Voilà, j'ai cité l'Ancien Testament, et certains vont me dire qu'on est dans le Nouveau, donc voilà, je préfère répondre. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, tout à l'heure je vous ai lu Lévitique 26, 12. Hein. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Paul reprend ce passage du Lévitique pour l'église de Corinthe. C'est toujours actuel, il se propose de marcher au milieu d'eux. Il dit, et même au-delà de dire « je me propose si vous le voulez bien », c'est plutôt au fait, c'est une information, je vais marcher au milieu de vous. Voilà, je vais venir. Donc je patiente, mais il y a quand même une date de péremption. À cause des élus, justement. À cause de ceux qui persévèrent, où Dieu leur dit, comme dans les martyrs dans l'Apocalypse, « attendez encore, patientez encore ». Mais Dieu, il veut pas qu'ils patientent éternellement. Il dit même qu'il va abréger le temps sur la terre. À cause des élus, le temps des tribulations. Donc à un moment, il va descendre et il dit à tout un chacun, je veux tous vous sauver, je veux tous vous prendre, l'arche est assez grand, la place de l'autre côté, il y en a plein. J'aimerais que vous soyez tous là, mais maintenant, il faut vous rendre capable d'y être. Et vous pouvez pas que juste prier, chanter ou lire. Vous devez vivre ce que vous recevez dans la prière, exprimer dans la pratique l'impulsion que vous avez dans la louange et mettre en pratique ce que vous avez lu. C'est ce que nous devons tous faire pour préparer un lieu pour notre Dieu. Et j'aimerais vous lire un dernier passage qui se trouve dans le livre de Deutéronome. On retourne dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 23, verset 14. Deutéronome 23, 14, il est écrit « Car l'Éternel, ton Dieu, marchera au milieu de ton camp pour te protéger. » Et pour livrer tes ennemis devant toi. Waouh, c'est puissant. Hein, c'est ça l'effet de sa présence au milieu de nous. Mais il y a un point virgule où on met un point d'habitude. Là, il met un point virgule, ça veut dire voilà, c'est une réalité, mais il y a une suite. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Voilà ce que Dieu se propose de faire et voilà la condition qu'il attend de nous. On dit, ah mais Fabien, t'as vu, personne n'est parfait. Mais c'est là où la relation avec Christ est si importante. Parce que la purification, elle est faite par lui. En lui, celui qui est en lui, lave continuellement sa robe dans le sang de l'agneau. Il est transformé par lui. Tu vis sous cette justification, mais tu vis vraiment dans cette justification. Tu fais pas tout ce que bon te chante en disant après, t'as vu, je sors ma carte Joker, Ésaïe 53. Tu vois, c'est sortir de ça. Je vis selon Dieu. J'ai donné ma vie à Christ. Je suis devenu chrétien. Je me suis proposé, comme des millénaires de personnes avant moi, de préparer un lieu sur cette terre. Et quand bien même je serai le dernier des Mohicans vivant sur cette terre de France, ben je resterai le Mohican que je suis. J'ai décidé, moi vivant, il y aura un lieu pour monter sur cette terre. Et Moïse dira un jour à ce peuple, à qui il dit à peu près ce que je viens de dire, à moi ceux qui sont à l'Éternel. À moi ceux qui sont à l'Éternel. Venez à moi ceux qui sont à l'Éternel. Pourquoi? Pour m'ériger en hauteur. Non, venez à moi pour que maintenant on aille sortir l'impureté du camp. Et c'est ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'il a renversé l'idole qui était le veau d'or. C'est comme ça qu'il a épuré le camp. Et c'est comme ça que Dieu n'a pas détruit Aaron, c'est-à-dire la prêtrise, et qu'il a créé la réforme nécessaire pour tout ce qui devait être fait. Et grâce à ça, jusqu'à aujourd'hui, on a la parole de Dieu. Il faut des personnes qui se lèvent, qui disent « Écoute, à moi ceux qui sont à l'éternel, parce que moi j'en suis. » Vous me comprenez ? La première chose, c'est la promesse, j'habiterai au milieu d'eux. La deuxième chose, c'est le défi, c'est la sanctification. Le mot sanctification ne veut pas juste dire se détourner du péché tel qu'on l'entend. Sanctification veut dire, sanctifier veut dire mise à part. Être mis à part pour lui. Tu peux être mis à part dans tes défauts. Après, c'est ce que je veux dire par là, c'est ce qu'on met à part, des fois, n'est pas parfait. Comme si demain j'achetais une voiture, je la répare. Ça, c'est le rôle du propriétaire. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, que tu te laisses mettre à part par lui, c'est lui qui te répare. C'est lui qui te façonne. C'est lui qui te revêt. Puis, je suis désolé, je parle un peu crûment. C'est ma façon d'être. J'espère pas vous vexer. C'est pas du tout mon cœur, ni d'être irrespectueux envers qui que ce soit. Mais des fois, nos vies sont des épaves. Mais c'est pas grave, notre Dieu est encore créateur. Il peut faire de cette épave un joyau. Et il le fait. C'est pas grave ce qu'on est. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait ce qu'on est. Écoutez, moi j'ai fait notice constructeur, je remets la clé au constructeur. C'est arrivé à faire quelque chose de ça. Et il en fait quelque chose, gloire à son nom. Et il faut que l'Église retrouve cette dimension. Et pour que l'Église la retrouve, c'est pas que les pasteurs, c'est l'ensemble du corps qui dit, écoute, t'as vu, là, pasteur Joe ou d'autres, ils peuvent pas rentrer dans tous les foyers et la Sainte Inquisition évangélique, et ils viennent, ils regardent tout ce qui va pas, ils mettent le feu, bûcher, chasse aux sorcières. Alors voilà, le roi de Salem, c'est pas tout le monde au feu. Non, chacun doit rentrer dans son foyer, chacun doit purifier sa maison, chacun doit rentrer dans son cœur, chacun doit purifier son cœur. Et ensuite, après, on parlera de purifier le temple, et vous allez voir si le réveil va pas venir sur la France. Mais ça demande du travail. Ça fait des générations qu'on prie pour ça. Ça fait des générations qu'on prie pour ça. Soyons honnêtes, bon sang. Ça marche pas toujours très bien, non ? Ok ? C'est peut-être qu'à force de prier, on a reçu des infos qu'on n'a pas appliquées. On doit appliquer ces infos. Et pourquoi je suis heureux que ce soit enregistré ? Pas pour faire des vues, ou quoi que, pour certains. Parce que j'aimerais que ceux qui sont responsables du corps de Christ l'entendent. On a un rôle. Qu'on soit inconnu comme nous, encore plus connu comme vous. On a un rôle. Nous qui enseignons le peuple de Dieu à l'enseigner dans ces choses. Voilà comment on prépare la venue du Seigneur. Quand Moïse passe dans le camp, Dieu lui dit, au fait, je vais venir. Moïse, je te garantis que il a couru dans le camp et fait passer des griots comme on fait en Afrique. Il faut crier au village, là. Le roi vient, purifiez-vous, sanctifiez-vous. T'as pas pris de douche, c'est le moment de te doucher, mon ami. Change de vêtements. Ça faisait longtemps que ta femme voulait te le dire, mais là, maintenant, c'est le moment. Faut le faire. C'est le moment de se mettre en ordre. Pourquoi ? Dans 3 jours, il est là. Il n'y a pas, mais attends, je mets 10 minutes de plus sur le réveil. Il n'y a plus 10 minutes de plus. Et là, c'est le moment où chacun, le peuple d'Israël, autant le courage qu'il avait, ces jours-là, ils se préparaient. Hein. Et ils arrivaient vers cette montagne. Ouf. Même préparés, ils disaient... Tu sais, au début, ils voulaient tous monter dessus. Après, à la fin, non, en fait, non. Oh, on est bien ici, Moïse. Ouais, vas-y, toi. T'inquiète pas, on t'écoutera. On connaît la suite de l'histoire. Mais nous, on s'est approché d'une montagne qui n'est pas aussi effrayante. Mais ne vous trompez pas sur les apparences. Elle est bien plus puissante. Elle est pleine de grâce. Et c'est pour ça qu'elle peut être terrifiante. Et je voudrais m'expliquer, je finirai là-dessus. La grâce triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Magnifique. Et c'est vrai. C'est-à-dire que la capacité de la grâce est plus grande que la condamnation première. C'est-à-dire que voilà, l'ennemi, c'est comme un bras de fer. Voilà, selon les personnes, il y en a, ils ont plus de muscles. La grâce, elle a plus de muscles que la condamnation. Mais le problème, c'est que si tu méprises la grâce, c'est la grâce et la condamnation qui s'allient pour te tomber dessus. La montagne qui est dans les cieux, qui est pleine de miséricorde, au jour que la patience s'arrêtera, ceux qui ont pris part à cette miséricorde seront bénis éternellement sans risque de chuter. Mais ceux qui n'auront pas pris la considération de ces choses vivront ce que le Seigneur a dit. Ils diront aux montagnes de leur tomber dessus. Et tu sais ce qui se passera ? Elle leur tombera dessus. Parce qu'il est dit que cette pierre est une pierre d'achoppement. Et que celui sur qui elle tombe est réduit en poussière. Mais ceux qui décident d'en faire quelque chose seront bâtis dessus. et ils seront un monument que plus personne ne pourra bouger. C'est ce que le Seigneur se propose de faire de chacun d'entre nous, de chaque chrétien. Moi, je dis souvent à Lydie tout à l'heure, je dis, c'est délicat ce que tu as dit, la louange. On est tous contents. Je dis, moi, j'ai l'impression que je pète toujours l'ambiance après. Mais tu sais quoi, on doit dire la vérité au peuple. Et ceux qui aujourd'hui le prennent mal, les années passant, nous aimeront. Ouais, t'as vu, bah, c'était vrai ce qu'ils ont dit. Et là où les gens voulaient se faire aimer de toi, te dire que tout va bien, paix et prospérité, une ruine soudaine te surprendra, et ils seront où tes héros? Pour te dire, eh ben, t'as vu, on s'est trompé. Voici l'évangile tel qu'il a été annoncé depuis des millénaires et qui a sauvé des milliers de générations. Aujourd'hui, ce roi qui a été annoncé va revenir. Cette gloire qui est en exil va se redéposer dans les lieux qui ont été proposés. Si c'est des églises, tant mieux, c'est mieux. Ça accueille du monde. Si c'est pas des églises, ça sera dans des maisons et sur des personnes. Il le fera quoi qu'il en soit. Parce qu'il a promis qu'il reviendrait et il va le faire. Maintenant, est-ce qu'on sera de ceux qui seront disposés à l'accueillir dans notre cœur comme dans notre environnement? Amen. Voilà, il y a au moins quelqu'un qui a signé, mais je crois que vous aussi, par évidence. C'est ce qu'on doit faire. Vous savez, c'est pas juste un beau speech. D'ailleurs, je sais pas s'il est très beau. Mais c'est juste, moi je cherche à vous apporter la part, humblement, de la vérité que j'ai saisie. De ce qui fait que des millénaires durant, des hommes et des femmes ont engagé leur vie à servir ce Dieu. Parce qu'ils se sont dit, à son retour, qui a l'air d'être assez lointain à l'époque, il faut qu'il y ait une génération qui se maintienne, qui soit là. Le Seigneur Jésus dit, je le répète encore une fois souvent, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Est-ce qu'on pourrait avoir compassion de Dieu comme il a eu compassion de nous? Dire, écoute, Seigneur, ben, elle est peut-être imparfaite cette fois, mais moi, sincèrement, je vais t'amener la mienne. Et ça, ça le touche. Ça, ça l'honneur. Paul, il dira, je suis venu moi-même, puis j'ai envoyé Tite et le frère parmi vous, à ces Corinthiens à qui il dit de venir. Paul, ça veut dire petit. C'est l'humilité qui peut accueillir Dieu. Tite, ça veut dire honneur, honorable et nourrice. C'est le fait de savoir se donner, de prendre soin de ce qui est petit et de connaître l'honneur. C'est des vertus qui sont accessible à tous ici. C'est pas la capacité de prophétiser qui assure que Dieu va venir. D'ailleurs, j'en profite, comme ça je démystifie le truc. Un vrai prophète, c'est pas celui qui te donne que des paroles de connaissance, c'est celui qui te montre le chemin qui mène à Christ et qui t'apprend comment le préparer. Moi, je suis pas venu faire du spectacle, je suis pas intéressé, je le ferai pas de toute façon. Et je te garantis que si tu veux jouer à ça, je peux le faire, plus que tu le penses, mais je le ferai pas. Tu peux forcer autant que tu veux, je le ferai pas. Je suis venu te préparer à rencontrer ton Dieu. C'est le mandat qui nous a été donné. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Ça, c'est être digne d'être appelé prophète. Porte-parole qui te montre la voie. Ce qui ne vous amène pas à Christ, balayez-le. S'il y a des paillettes, c'est pareil. Qu'est-ce qui m'amène à Christ? Je dois rencontrer ce Dieu. Pas juste applaudir un guignol sur la scène. Je dois rencontrer ce Dieu. Tout ce qui ne vous amène pas à ça, rejetez-le. Quand bien même ce serait dans votre cœur, rejetez-le. Rejetez-le. Oui, mais on m'a appris. Rejette-le. Nul n'est censé ignorer la loi. Soyons forts parce que le Seigneur revient. Et il faut qu'il puisse nous trouver. Et quand il dit « trouverai-je la foi », soit de ceux, c'est pas de l'orgueil de dire « Seigneur, moi, tu me trouveras ». Oui, mais l'apôtre Pierre, il a dit que... T'inquiète pas pour l'apôtre Pierre. T'inquiète pas, l'apôtre Pierre, à la fin, on l'a trouvé en place, hein. Quand il s'est repenti. Considère l'ouvrage qui est devant nous. Considère le Dieu qui revient. Qu'est-ce que ta vie, qu'est-ce que la mienne face à ça? Engageons tous nos efforts pour ça. Et on sera trouvés dignes. Et tu vas voir comment le réveil va nous porter, comment la réforme va nous utiliser, et au-delà même de ça, combien l'éternité va être jouissif. C'est pour ça que Christ est venu. Soyez bénis, que le Seigneur vous fasse du bien. On va se lever, vu qu'il va voir la Sainte Cène. Et j'aimerais qu'on puisse prendre la Sainte Cène dans cette disposition-là. Il est dit dans l'Épître aux Corinthiens que nous prenons le pain et le vin en souvenir de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Vous connaissez ces passages? Nous prenons le pain et le vin en souvenir jusqu'à son retour. Le Seigneur va revenir, comme on l'a dit. La marque d'engagement pour celles et ceux qui sont en Christ et qui croient en ces choses. Prends ce pain et ce vin en disant, Seigneur, en mémoire de toi, jusqu'à ton retour, tu me trouveras jusqu'à ton retour, jusqu'à ce que tu me reprennes, mais je serai là. C'est un acte militant que de prendre la Sainte Cène. C'est une façon de dire, moi je suis là, j'ai pas oublié ce que tu as fait. J'ai pas oublié ce qu'ont fait les générations avant. Je m'inscris là-dedans parce que j'en serai. Eux, ils sont plus, moi je suis encore là. Et ensemble, nous parviendrons à la perfection. Je prends le pain et le vin en souvenir de ton corps, en souvenir de ton sang, pour être guéri, pour être béni, par évidence. Mais parce que tu reviens. Et en attendant, comme tu m'as laissé les arts de l'esprit, tu m'as laissé la Sainte Cène, je chéris ces choses, j'honore ces choses, et j'engage ma vie à la suite de ces choses. Ce que le Seigneur veut faire. Est-ce que je peux prier ? Je vais prier alors, merci. Père éternel Dieu, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour cette église, pour l'attention qu'ils ont, si peu commune. Nous les bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es venu un jour sur cette terre, tu t'es donné entièrement, tu nous as laissé un souvenir et une arme si puissante, une porte de grâce si énorme. Et tu nous as dit, en attendant, prenez ça jusqu'à mon retour. Rappelez-vous que je reviens. Alors Seigneur, oui, nous disons Maranatha, mais Saint-Esprit, toi qui viens rendre témoignage, l'eau, le sang, l'Esprit, tu dois nous conduire dans toute la vérité. Nous demandons pardon pour toutes les fois où, involontairement ou peut-être volontairement, nous t'avons désobéi et attristé. Et nous te demandons, Seigneur, conscient de ces choses, que tu nous conduises dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Que tu nous conduises, Saint-Esprit, dans la vérité qui est Jésus-Christ, l'être incarné, le Fils du Dieu vivant, pour que nous-mêmes nous devenions ses fils et ses filles. Seigneur, nous voulons que tu trouves un lieu où reposer ta tête, la tête de l'Église, qui est Jésus-Christ, le corps des ministères, puisse trouver un lieu où il puisse poser, se poser, bâtir. Demandons, Seigneur, qu'il y ait un lieu où ta gloire puisse venir reposer. Merci pour les êtres vivants qui t'ont porté. Merci pour tout ce temps. Et maintenant, Seigneur, viens au milieu de nous. Prépare-nous, dispose-nous. Les Philistins ont gardé l'arche. Il fallait qu'ils rentrent en Israël. Les bœufs l'ont porté, comme les animaux, les êtres vivants l'ont porté. Mais il fallait des Lévites, selon ta loi. Nous voulons être ces hommes, ces femmes, revêtus des vêtements de justification, d'un cœur de service conscient de cette loi, en accord avec elle, qui portons ton alliance. Que ta grâce et ta puissance descendent et sois bénis, Père éternel, pour ce pain, pour ce vin. Nous bénissons ce pain et ce vin. Nous bénissons la coupe de bénédiction. Nous bénissons le pain de la bénédiction. Merci pour le produit de la vigne. Merci pour le produit de la terre. Merci pour ta bénédiction qui vient et qui oint ces aliments. Que nous soyons unis à toi par cet acte de foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.